Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri. Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Tombouctou Al-Bilal Soudan nous accueille pour le Grand Dialogue d'aujourd'hui, 20 juillet. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce Grand Dialogue délocalisé qui va parler aujourd'hui de l'action humanitaire dans la région. Vous nous écoutez depuis les locaux de la radio Diamana Tombouctou, partenaire du studio Tamani. Depuis 2012, plusieurs régions du pays ont bénéficié de l'appui d'institutions et d'ONG œuvrant dans l'action humanitaire. Quels sont les secteurs concernés par l'humanitaire ? Est-ce que les populations sentent l'impact de ces aides dans leur quotidien ? La région de Tombouctou est-elle aujourd'hui dépendante de l'action humanitaire ? Nos invités répondront à ces quelques questions et bien d'autres. Il s'agit de Bassandi Adiaviakoui de l'ONG Ardil, Action et Recherche pour le Développement des Initiatives Locales, Yaya Fomba de Plan International Tombouctou, Amadine Ongoïba de l'AMSS, Association Malienne pour la Survie au Sahel. Je suis Ousmane Diadié Touré à la présentation, à la technique, Ya Peting Diara, accompagné par nos amis de la radio Diamana Tombouctou.
Le Grand Dialogue.
C'est grâce à l'action de ces hommes et femmes que plusieurs réfugiés et déplacés sont revenus chez eux, même si environ 137 500 réfugiés maliens se trouvent toujours dans les pays voisins. 33 400 au Burkina environ, 52 000 environ en Mauritanie et quelques 50 000 au Niger selon l'ONU. Près de 380 411 enfants sont en dehors du système éducatif, même si beaucoup d'efforts sont faits dans le secteur. On évalue à 8 500 enseignants le besoin en personnel éducatif dans les localités. Environ 294 000 personnes, soit 36%, vivent dans un risque d'insécurité alimentaire, sans parler de l'insécurité dans la région, qui rend la réponse humanitaire encore plus difficile. Alors, dites-moi, Monsieur Adiaviakoué de l'ONG Ardil, je rappelle que c'est Action Recherche pour le Développement des Initiatives Locales. Dans quel secteur est-ce que vous intervenez exactement?
D'accord, merci beaucoup Monsieur Touré. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord, au nom de la communauté humanitaire de la région de Tombouctou, de remercier très sincèrement les studios Tamani pour avoir pris cette initiative de nous donner la parole. Permettez-moi également de saluer très cordialement l'ensemble des auditrices et des auditeurs de la radio ou bien des studios Tamani. L'humanitaire en tant que tel, ça signifie quoi? L'action humanitaire est une action d'urgence et ponctuelle mise en place lors d'une situation de crise exceptionnelle. Et nous, on intervient essentiellement dans plusieurs domaines et singulièrement dans le domaine de l'hydraulique. Voilà, ça c'est ce que je pourrais dire par rapport à votre question.
Merci. À présent, Yaya Fomba de Plan International Mali. Alors, on connaît un tout petit peu Plan International, mais à Tombouctou, qu'est-ce que vous faites exactement? Dans quel secteur évoluez-vous? Dans quel secteur de l'humanitaire? On imagine que l'humanitaire touche à beaucoup, beaucoup de volets, mais Plan intervient où exactement?
Merci, M. Touré, à l'instar de mon prédécesseur. Je remercie également les studios Tamani et le partenaire, la radio Diamana de Tombouctou, pour nous donner l'opportunité un peu de parler des actions que nous menons dans la région de Tombouctou. Et Plan International, au niveau de la région de Tombouctou, intervient dans une approche intégrée de développement, principalement dans les domaines de l'éducation, de la nutrition, de la résilience, et dans l'appui aux services sociaux de base pour permettre aux populations d'accéder à ces services après qu'ils aient été dégradés lors de cette crise majeure qu'a connu notre pays. Donc nous intervenons dans toute la région de Tombouctou, les 5 cercles et plus de 30 communes.
Merci. On reviendra tout à l'heure pour parler justement de Plan et de ce que Plan fait. D'ici là, nous avons également sous la main Amadine Ongoïba de l'Association Malienne pour la Survie au Sahel. Bonsoir Monsieur Ongoïba. Alors, votre association intervient dans quel secteur de l'humanitaire?
Merci Monsieur Touré. Je ne vais pas revenir sur les salutations habituelles que les autres collègues ont adressées à la radio Tamani. Je leur remercie également pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur l'antenne aujourd'hui en direct. Et AMSS, c'est l'Association malienne pour la survie au Sahel. Aujourd'hui, peut-être si j'allais me limiter seulement à cela, et je pouvais dire qu'AMSS n'était plus à présenter au niveau de la région Tombouctou. Mais n'empêche, l'AMSS intervient dans la plupart des domaines concernés par les actions humanitaires. Si je retiens que l'action humanitaire consiste à sauver des vies, d'atténuer les souffrances, de préserver la dignité humaine pendant et après les crises provoquées par l'homme ou des catastrophes naturelles. Donc à ce sujet, nous intervenons dans la plupart des secteurs comme l'éducation, la santé et l'hydraulique. Mais par rapport à ce débat, nous allons mettre l'accent sur les réfugiés et qui sont soit restés sur les pays d'asile ou qui sont revenus au pays après la crise de 2012.
Merci. On revient du côté de Bassandi Adjaviakoui de l'ONG Ardil. Alors dites-moi, monsieur Adjaviakoui, comment se porte le domaine de l'humanitaire dans la région de Tombouctou aujourd'hui?
Bon, ok. Monsieur Touré, nous allons dire Alhamdoulilah. Depuis l'éclatement de la crise, la région de Tombouctou quand même a bénéficié de la solidarité internationale. Parce que depuis 2013... à Tombouctou, nous voyons évoluer 10 agences, fonds et programmes des Nations Unies à Tombouctou. Depuis 2013, nous voyons opérer à Tombouctou environ 25 organisations non gouvernementales. Depuis 2013, évolue à Tombouctou une vingtaine d'ONG nationales. Et tout ceci au bénéfice des communautés durement touchées. Nous n'oublions pas certainement la mission de stabilisation des Nations Unies, la MINUSMA, qui aussi est à Tombouctou dans le cadre, qui travaille également dans le cadre de l'humanitaire, sans oublier un partenaire technique et financier qui est Lux Développement, qui a également mis à la disposition de Tombouctou ses activités et ses appuis, ses assistances, pour apporter des réponses appropriées aux besoins des communautés. Donc nous pouvons dire Alhamdoulilah tant bien que mal.
Merci. À présent, Yaya Fomba de Plan International Tombouctou, est-ce qu'on peut dire justement avec cette forte présence des services, de plusieurs services qui travaillent dans le secteur de l'humanitaire, est-ce qu'on peut dire que l'accès aux services sociaux de base est assuré dans la commune urbaine de Tombouctou, mais également dans les cercles et localités?
Oui, on peut estimer aujourd'hui qu'à Tombouctou, il y a un accès aux services sociaux de base, mais pas dans les zones reculées. Il y a beaucoup de zones aujourd'hui où nous remarquons vraiment la situation sécuritaire qui évolue de façon négative et qui empêche certaines populations à accéder aux services sociaux de base. Il y a beaucoup de localités. On pourrait citer par exemple le cercle de Goundam où on a quand même certaines zones où les anciens sont absents, où les services de santé ne sont pas, et l'État, l'administration même n'y est pas. Et la communauté humanitaire, depuis les premières heures de la libération avec la force Serval, a quand même permis d'atténuer beaucoup les effets de la crise. On sait que les régions du Nord en général sont structurellement vulnérables. Et la crise n'a fait qu'accentuer cette vulnérabilité. Donc des populations qui n'étaient pas suffisamment autonomes, si elles sont affectées par une crise d'une telle ampleur, vous imaginez un peu comment elles se trouvent. Et c'est vraiment l'action humanitaire qui a permis de relever un peu cette situation, qui est globalement satisfaisante aujourd'hui, mais encore faudra-t-il insister là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup à faire pour que les services sociaux de base puissent être effectivement accessible à toute la population de la région. Certaines zones sont plus ou moins accessibles, mais il y a d'autres où vraiment ces services sociaux sont presque inexistants, sinon inexistants.
Alors justement, ceci m'amène à poser cette question-là à l'AMS, à l'AMSS de Amadi Nangouiba. Comment travailler dans une zone à risque comme Tombouctou, comme la région de Tombouctou? On a parlé tantôt des zones reculées. Comment vous arrivez justement à évoluer dans les endroits à risque?
Merci, Monsieur Touré. Je pense que l'AMSS fait partie de ces ONG qui sont restées malgré les crises au niveau des zones affectées, même si la crise a affecté presque tous les pays, mais avec un accent sur les régions du Nord, et principalement au niveau de la région Tombouctou, où les actions des AMSS sont concentrées. Et comme je venais de le dire, l'AMSS, c'est cette ONG qui embrasse presque la plupart des domaines qui sont liés aux services sociaux de base. Mais dans le cadre de cette émission, nous allons mettre l'accent sur le projet que nous exécutons en partenariat avec, avec le HR, dénommé le projet Monitoring de protection et promotion de la cohésion sociale et la lutte contre les violences basées sur le genre. Dans le cadre de ce projet, AMSS intervient sur les 5 régions du Nord avec un accent sur la région Tombouctou avec une couverture totale de la région. Nous avons 51 moniteurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire de la région Tombouctou. Tu viens de le dire tout à l'heure avec précision, et il y a encore un nombre très important des populations maliennes qui sont en dehors du territoire malien. Ils sont estimés sur les chiffres qui nous est mis à disposition par l'État malien à 134 058 personnes encore qui vivent en dehors du territoire malien.
On parle des réfugiés.
Des réfugiés.
D'accord.
Des réfugiés, oui. Mais avec une conjugaison d'efforts menée par l'ensemble des acteurs intervenant sur ce domaine de l'humanitaire, mais en partenariat avec le HR, DRC, IEDA Mali, bien d'autres intervenants.
Alors, il y a aussi ces nombreux déplacés, parfois déplacés dans d'autres communes, dans d'autres cercles, dans d'autres régions du Mali.
Voilà, les chiffres que je viens de donner, comme tu viens de le dire avec précision, c'est les réfugiés, mais en plus de ces chiffres, il y a les déplacés internes, dont le nombre de retours est beaucoup plus important.
On parle de combien environ en termes de chiffres, les retours des déplacés?
Les déplacés internes sont estimés en retour aujourd'hui à 238 120 personnes.
Sur un total de... Il y a combien? Est-ce qu'on a un chiffre global du nombre de déplacés internes?
Le nombre de déplacés internes, c'était au début de la crise, c'était estimé jusqu'à plus de 500 000 personnes.
D'accord.
Mais aujourd'hui, reconnaissons que nous allons mettre l'accent surtout sur les rapatriés qui sont, pour la région Tombouctou, actuellement à 23 554 personnes qui sont revenues. Donc ce nombre augmente par mois. Ce travail de recensement des réfugiés est conduit par l'État malien qui assure le leader de ce travail à travers la Direction nationale du développement social, en partenariat avec le HR et AMSS et d'autres intervenants. Donc, vraiment, le retour est actuellement encouragé et il y a beaucoup de personnes qui reviennent. Mais reconnaissons encore qu'il reste encore d'autres personnes qui ont besoin d'être rassurées au regard de tout ce qui se passe encore au niveau de la région, pour finalement prendre une décision finale.
Alors, Bassandi Adjaviakou, il souhaite réagir sur ces chiffres-là. Avant, j'allais vous poser une question, mais allez-y très rapidement.
Non,
on reviendra à votre question.
Pas nécessairement sur les chiffres, mais sur la question.
D'accord.
Comment arrivez-vous à travailler dans un environnement à risque? C'est une question très importante, parce que beaucoup de personnes en dehors de Tombouctou ou bien des régions du Nord se posent la question comment on arrive à évoluer. Je n'ai pas la prétention de parler des stratégies de l'ensemble des humanitaires, mais je sais que de façon générale, les gens arrivent à intervenir auprès des communautés à travers le respect des principes humanitaires, c'est-à-dire l'indépendance, la neutralité, l'impartialité. Vous voyez, ça je sais que c'est transversal à l'ensemble des humanitaires. Je sais aussi que pour pouvoir intervenir aussi dans un environnement à risque, il y a la gestion de l'information. Prenez ceci au sens large du terme. Depuis l'arrivée des humanitaires sur place, jusqu'à la planification des activités, jusqu'au déplacement opérationnel sur le terrain, jusqu'au suivi, vraiment la gestion de l'information, c'est un aspect très important. Et aussi, pour qu'on puisse évoluer dans un environnement de ce genre, ça c'est peut-être... Comme mon collègue Ongoïba de l'AMSS a dit, nous sommes aussi l'une des rares ONG d'être restés sur place pendant toute la période de la crise. On n'a pas bougé. Il y a l'expérience et la connaissance du terrain où il y a aussi l'acceptance des structures par les communautés. C'est très important. Et aussi, bon, les évaluations rapides des besoins qu'on fait à travers les diagnostics rapides et tout ça.
Merci.
Je pense que c'est
magnifique. Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons continuer cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. Vous nous écoutez depuis Tombouctou dans les locaux de la radio Djamana. On parle justement de l'action humanitaire à Tombouctou. Nos invités sont Bassandé Adjaviakoué de l'ONG Ardil Action Recherche pour le développement des initiatives locales, Yaya Fomba de Plan International et Amadi Nongouiba de l'AMSS, Association Malienne pour la Survie au Sahel. À présent, nous allons un peu parler des priorités qu'il y a dans le secteur de l'humanitaire. Monsieur Fomba, est-ce que, au regard des quelques informations et des quelques jours passés ici, est-ce qu'on peut dire que tout est prioritaire?
Merci, M. Touré, mais s'il vous plaît, permettez-moi de revenir un peu par rapport à la question sur l'accès humanitaire. Les ONG n'ont pas les mêmes stratégies d'intervention. Nous, nous sommes par exemple une ONG internationale. Notre présence à Tombouctou a débuté juste après la libération. Je signale aussi que les deux ONG nationales qui sont là sont partenaires de plan international dans la mise en œuvre des activités. Donc l'accès humanitaire, il y a plusieurs stratégies. Nous, nous faisons un peu ce qu'on appelle la mitigation des risques, qu'on appelle communément transfert des risques, mais je préfère le terme partage des risques. C'est-à-dire c'est des ONG nationales qui sont là, bien ancrées, qui connaissent les populations, qui connaissent les zones d'intervention, qui ont une certaine expertise en termes de mise en œuvre de l'assistance dans ces zones-là. Nous nous appuyons sur elles pour délivrer l'assistance. La question, elle est importante, c'est pourquoi vous avez remarqué que M. Adjaviakoué est revenu là-dessus et moi aussi. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de zones aujourd'hui qui ont vraiment besoin de l'assistance humanitaire. Mais dès qu'on parle de ces zones en Oumbaer, il y a des difficultés à leur faire accepter. Parce que l'accès est extrêmement difficile. Je prends, d'abord, il y a ce qu'on appelle
la mitigation.
Oui, il y a la mitigation des risques, mais aussi il y a le fait que nous adoptons des stratégies qui sont adaptées. Par exemple, aujourd'hui, sur la route de Goundam, il y a trop d'incidents. Il y a même souvent des morts d'hommes là-dessus. Si les agents, les gens sont attaqués, dépouillés de leurs biens, etc., nous empruntons d'autres tronçons qui nous prennent du temps, des moyens, etc.
Donc, on a vu vos collègues du CICR qui ont été victimes de raptes et d'enlèvements quelques fois.
Justement.
Bien heureusement, on a connu des fins heureuses à cela et ce n'est pas toujours le cas.
Non, il y en a qui malheureusement perdent souvent la vie dedans. Il y en a qui perdent beaucoup de biens et souvent même ça provoque chez certaines ONG le retrait pur et simple de ces zones-là. Maintenant, pour revenir à la question de priorité, je dirais qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont prioritaires, mais généralement les populations qui sont victimes d'une crise, lors des premières évaluations qui sont faites, la tendance est à l'assistance alimentaire d'abord. Les populations réclament d'abord une assistance alimentaire de la part des acteurs humanitaires et ensuite viennent les questions d'accès à l'eau, hygiène, assainissement, éducation et enfin, un aspect extrêmement important, c'est la résilience, sinon l'assistance pour les activités génératrices de revenus qui devraient permettre aux foyers de s'autonomiser davantage, de revenir à une situation normale. Et je crois que ces premières phases, l'assistance alimentaire, elle est assurée aujourd'hui avec beaucoup d'ONG, en partenariat avec le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, qui délivre presque cette assistance alimentaire dans toute la région de Tombouctou. Il y a souvent certaines difficultés qui leur obligent un peu à se retirer de certaines zones, mais globalement, on peut estimer que il y a cette assistance alimentaire qui est fournie, en plus de l'assistance nutritionnelle. Et après cela, il y a le domaine de l'éducation dans lequel nous intervenons principalement.
C'était d'ailleurs la prochaine question, justement. Qu'est-ce que les faits? On reviendra vers vous tout à l'heure pour que vous nous parliez de ce domaine prioritaire de l'éducation. D'ici là, Monsieur Ngoïba de l'AMSS, est-ce que vous intervenez directement dans le domaine de l'éducation également?
Nous intervenons, comme je l'ai dit, dans le domaine de l'éducation.
Parce que quand on voit un exemple, quand on voit les cantines scolaires, les écoles mobiles aujourd'hui dans la région, où est-ce qu'on en est? On a tantôt donné certains chiffres d'ailleurs, quand on évalue les besoins des enseignants, quand on voit certaines zones à risque où il n'y a toujours pas d'école.
De façon générale, nous intervenons dans Dans la plupart des localités qui sont concernées par cette crise dans le domaine de l'éducation, à travers l'UNICEF, à travers la Fondation Strom, à travers d'autres partenaires en fait.
Alors, donc, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui dans ce secteur?
Ce qui est fait, c'est d'abord, par rapport avec certains partenaires, c'est contribuer à réhabiliter les locaux pour permettre au personnel au moins d'être dans les conditions de dispenser les cours. Mais aussi, principalement, c'est de travailler pour un enrôlement des enfants qui étaient soit partis de chez eux ou qui reviennent. Donc, c'est de leur donner la chance pour réintégrer les classes. Et dans ce domaine, nous avons beaucoup travaillé avec l'UNICEF, nous avons beaucoup travaillé avec la Fondation Strom. Souvent, nous abordons même les aspects de l'éducation informelle pour ramener les enfants à l'éducation formelle. Comme par exemple la stratégie de scolarisation accélérée que nous développons depuis des années d'ailleurs avec la Fondation Strom.
Alors, elle consiste en quoi cette stratégie?
La stratégie de scolarisation accélérée consiste à recruter les enfants de 8 à jusqu'à 14 ans et qui sont déscolarisés ou non scolarisés, leur permettre de réintégrer le système éducatif après une formation intensive de quelques mois, de 7 à 9 mois, et les reverser dans le système classique.
D'accord. Merci. On reviendra tout à l'heure vers vous, le temps de donner la parole à Bassandi Adjaviakoy de l'ONG Ardil. Alors, Bassandi, on a vu cet exemple de cantine scolaire qui existe dans certaines régions du Nord que le Bamakois ne connaît pas, et un exemple que forcément certaines autres régions du Sud ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que les cantines scolaires déjà?
Bon, en ce qui concerne le domaine de l'éducation, finalement, on donnera la parole à M. Fomba, qui est vraiment dans un domaine. Mais les cantines scolaires consistent en quoi? Il s'agit de permettre aux enfants d'être à l'école et d'être stables à l'école, les stabiliser à l'école jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire permettre à l'enfant, une fois qu'il est là, parce que vous savez, il y a les distances entre les villages, les écoles, etc., etc. Quand l'enfant est recruté, pour ne pas lui permettre d'aller à la maison et ne plus revenir, parce qu'en partant à la maison pour manger, il ne revient plus, on lui permet de manger sur place, de rester sur place jusqu'à ce qu'il ait le paquet minimum de cours qui est prévu pour l'enfant. Donc, à travers les cantines scolaires, on retient l'enfant à l'école, singulièrement les filles. On les retient à l'école pour qu'il n'y ait pas assez de scolarisation ou bien de déperdition scolaire. Voilà. Donc, mais il y a des gens un peu plus spécialisés que moi.
Alors, il y a Yafomba de Plan International Tombouctou. Alors, quand on dit Plan International Tombouctou, c'est correct, hein, on peut le dire. Voilà. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui est fait dans le domaine de l'éducation? Je sais que Plan intervient énormément dans ce secteur. Alors, qu'est-ce qui est fait dans la région de Tombouctou? Parce que au regard des chiffres, il y a quand même énormément d'enfants non scolarisés ou déscolarisés à travers cette crise-là.
Oui, dans le domaine de l'éducation, il y a principalement certains aspects. Il y a d'abord les infrastructures scolaires. On sait que la crise a fait dégrader beaucoup. La crise a fait dégrader beaucoup d'infrastructures scolaires. Nous travaillons donc à la construction de ces infrastructures scolaires et ou à la réhabilitation de ces infrastructures scolaires, souvent avec des approches innovantes qui permettent aux populations elles-mêmes de participer à travers des activités de cash for, de cash contre travail.
C'est quoi cash contre travail alors?
C'est-à-dire, c'est permettre aux communautés elles-mêmes de fournir la main d'œuvre non qualifiée et être récompensées, sinon procéder à la distribution de cash.
Donc c'est un espace participatif où les communautés elles-mêmes construisent leurs écoles et sont payées pour cela.
Oui, et ces cash-là leur permettent aussi de renforcer leurs moyens de subsistance. Mais en même temps, ça leur permet de participer elles-mêmes à la construction de ces, ou à la réhabilitation de ces écoles-là. Donc après les infrastructures, il y a aussi les équipements, les mobiliers scolaires, les outils de travail pour maître que nous fournissons également aux communautés. Les tables bancs, les bureaux de maître, les chaises, etc.
Alors, quand vous évaluez, quel est le besoin réel dans la région? Est-ce qu'il y a un grand besoin à ce niveau-là?
Oui. Aujourd'hui, nous estimons
le nombre d'écoles non ouvertes à 93 écoles sur 591. On a à peu près 30% des écoles encore qui ne sont pas
ouvertes. Dans toute la région.
Dans toute la région de Tombouctou, qui ne sont pas encore ouvertes, dues à des problèmes majoritairement de sécurité, mais aussi à l'inexistence d'infrastructures scolaires ou à un taux fort de dégradation qui fait qu'en réalité, les cours ne peuvent plus être dispensés. Donc, on estime à 498 alors le nombre d'écoles opérationnelles. Il y a aussi certaines zones, parce que ces taux-là sont un peu disparates. Il y a par exemple à Goundam où jusqu'à 39 écoles sont recensées être fermées aujourd'hui. Il y a des zones comme Ber, Salam, où c'est vraiment difficile. On a, dans toute la région aussi, on a 24 écoles mobiles.
Donc alors, 20... parlez-moi justement de ce système d'écoles mobiles. Qu'est-ce que c'est?
C'est l'école adaptée aux populations nomades. Des populations qui sont là aujourd'hui, demain ils se déplacent, et pour permettre à, pour donner la même chance d'accès à l'éducation, on les fait accompagner par des anciens qui dispensent le paquet minimum aux enfants, mais toujours en suivant leur itinéraire.
Alors justement, la difficulté à ce niveau-là, combien de familles nomades est-ce qu'il y a et combien est-ce qu'il y a d'enseignants pour pouvoir suivre chaque famille nomade justement?
Non, en principe, non. C'est les grandes communautés nomades qui sont accompagnées par ces anciens-là. Et la plupart des temps aussi, c'est des écoles qui sont supportées par les communautés elles-mêmes. Donc, c'est vraiment adapter l'école aux spécificités culturelles de ces populations nomades-là. Bon, après, il y a aussi ce dont mon collègue de AMSS parlait, il y a les écoles à passerelle. Ça concerne les enfants qui ont quitté l'école à cause de la crise. Mais aujourd'hui qu'on est en train de récupérer, on leur dispense une formation accélérée. Ça concerne principalement les enfants de 8-12 ans. On met en place un système qui renforce un peu leur niveau. Et une fois qu'on estime qu'ils ont acquis le niveau nécessaire, on le reverse dans le système éducatif. Ça aussi, à l'école classique, la région en a beaucoup aujourd'hui. On a jusqu'à 97 écoles de ces âges.
D'accord. On va à présent parler d'un autre secteur très prioritaire qui est la santé. Aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui, on peut dire, Monsieur Ongweba de l'AMS, est-ce que la région de Tombouctou connaît aujourd'hui suffisamment de centres de santé communautaires pour prendre en charge les besoins des populations?
Monsieur Touré, je sais que l'AMS travaille dans le domaine de la santé, mais je préfère le parler sous l'angle de l'aspect protection, monitoring de protection et lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons, dans ce cadre, un projet financé en partenariat avec l'AN, qui est appelé Debout à la FIA, qui travaille dans le domaine de la santé et surtout des femmes. Mais principalement, le monitoring de protection veut dire quoi? C'est en fait cette activité qui met l'accent sur les différents cas de violations faites, de violations de droits humains de façon générale, faites sur les personnes vulnérables. Et ces différents cas de violation sont spécifiquement et intégralement recensés par nos moniteurs au niveau des différentes localités et sont référés au niveau des différents centres de santé. Donc nous travaillons surtout sur les aspects de monitoring de protection et de lutte contre les violences basées sur les genres.
D'accord, on va y revenir si le temps nous le permet, bien évidemment. Monsieur Adjaviakoui de l'ONG Ardil, dites-moi, j'ai un document des Nations Unies qui nous parle de santé, qui estime que les besoins sanitaires accroissent avec le temps et la vulnérabilité et propose justement des cliniques mobiles. Est-ce que vous pensez que cela est censé d'avoir aussi des cliniques mobiles comme M. Fombal disait tout à l'heure avec les écoles mobiles?
Bon, j'avoue que cette expérience, je ne peux pas dire que c'est une expérience qu'on connaît dans notre zone, mais je sais qu'il y a des structures qui font de la santé mobile humaine et animale. C'est-à-dire, c'est comme des sortes de cliniques mobiles, c'est-à-dire des structures avec, je vais dire, des spécialistes ou bien des agents qui se déplacent, n'est-ce pas, pour aller vers les populations et leur apporter le soin qu'il faut dont ils ont besoin.
Est-ce qu'on a suffisamment de médecins aujourd'hui à Tombouctou? Est-ce que le déploiement des médecins est suffisant pour la région?
Sans ne pas être tellement dans le domaine, je ne pense pas que ceci soit évident, qu'il y ait suffisamment de personnel qui permette de donner les soins de qualité à tous les niveaux. Je sais que des efforts sont faits, et par l'État, et par les partenaires comme Médecins Sans Frontières, mais c'est pas évident qu'il y ait du personnel suffisant au niveau de la région pour pouvoir atteindre toutes les communes.
Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour la suite de cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Comment améliorer la réponse humanitaire pour une plus grande efficacité? C'est le chapitre qu'on va aborder. On va commencer par écouter Zainab Walet Sidi, qui a bénéficié de programmes de plusieurs ONG. Elle était réfugiée au Burkina Faso. On l'écoute.
On a été bénéficié de relance. C'est un programme de Merci Corps. C'est une caisse d'épargne pour les femmes. J'ai été bénéficiaire à Top Sahel pour les matériels kits. On a été bénéficiaire de Croix-Rouge pour la réhabilitation des maisons, d'NRC aussi pour la réhabilitation encore des maisons, et puis de l'État pour les vivres. Ça nous a vraiment été bénéfique. On n'a rien trouvé ici, au nom de tous les réfugiés, parce qu'il y a d'autres réfugiés, il y a d'autres rapatriés dans les brousses, dans les villages, qui sont là-bas, ils n'ont rien. Ils sont là-bas, ils ont besoin d'éducation pour les enfants. Ils ont besoin vraiment de beaucoup de choses. Il faut toujours améliorer, surtout sur les âgés, pour les jeunes, pour les femmes, et puis surtout sur la réhabilitation des maisons. Parce que les maisons, même s'ils ont été réhabilités, les gens ont besoin d'encore plus de réhabilitation pour leurs maisons.
Yaya Fomba, vous l'avez entendu. Alors aujourd'hui, ce cri de cœur, même si... Elle a bénéficié de plusieurs programmes d'aide et d'appui. Aujourd'hui, il y a quand même des insuffisances. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que il faut plus d'engagement de la part des bailleurs de fonds aujourd'hui?
Oui, c'est cri de cœur, j'avoue que c'est assez court. En réalité, on a besoin d'engagement des bailleurs, même si on a des difficultés aujourd'hui à mobiliser les fonds. Parce que vous voyez, à travers l'Afrique, surtout quand la crise centrafricaine a éclaté, et d'autres crises telles au Sud-Soudan aujourd'hui, ça a changé un peu la priorité des bailleurs de fonds. Ce qui fait que nous, au Mali, on a actuellement des difficultés de mobilisation des ressources à mettre en œuvre pour l'assistance aux personnes vulnérables, telles que les personnes rapatriées. Donc, en réalité, nous avons besoin de mobiliser beaucoup de fonds. Nous le faisons, en réalité. Nous le faisons. Nous menons à Tombouctou 4 projets d'envergure, en plus des anciens projets qu'on a déjà mis en œuvre, mais aussi on a même une unité qu'on appelle les grants qui sont là uniquement pour la mobilisation.
Les grants qui sont des fonds.
Que nous sollicitons auprès des bailleurs, non seulement des bailleurs internes de plan international dans les pays développés, les pays du Nord, mais aussi auprès d'autres structures, les Nations Unies, d'autres agences de développement, agences internationales de développement, etc. Donc vraiment, nous sommes dans la mobilisation des ressources. Et c'est seulement cette mobilisation des ressources-là qui peut nous permettre de mettre en œuvre les différents projets pour assister ces personnes vulnérables. Comme je le disais, Tombouctou, c'est une région structurellement vulnérable. La crise n'a fait qu'accentuer cette difficulté-là. Et si vraiment nous n'intervenons pas, nous risquons d'assister à des situations humanitaires beaucoup plus criables qui feront souffrir beaucoup plus les populations.
Alors, Amadi Nongoiba, dites-moi, est-ce que la mobilisation de fonds, justement, dans le domaine de l'humanitaire est difficile aujourd'hui?
Du début de la crise en 2012 à maintenant, il faut reconnaître qu'il y a eu énormément d'efforts fournis par les différents bailleurs de fonds. Mais il faut reconnaître aussi que, d'assistance, on a bénéficié. Pour que ces assistants servent réellement à la population, il faut les amener elles-mêmes à contribuer à leur propre production. Comme vous avez vu, la crise de 2012 a contribué à la destruction des moyens de production, à la déstabilisation des systèmes de production. Donc, la contribution des partenaires de fonds a beaucoup aidé à ramener la confiance chez les populations, à les amener à revenir chez eux, chez elles. Mais il y a un effort aussi qu'il faut faire en amenant ces communautés à pouvoir développer les moyens de survie, leurs propres moyens de production. Donc, dans ce sens, il y a un besoin plutôt de sensibilisation et surtout d'éducation qu'il faut bien développer. Sinon, les partenaires ont beaucoup fait. Et l'assistance, on n'en a jamais de trop. C'est vrai que nous en avons bénéficié, mais le système, la sécurité, le rythme de la sécurité est tel que
Donc, en gros, vous ne vous en plaignez pas. Vous êtes satisfait avec l'aide qui vous est octroyée.
Tu as bien compris ce que je viens de dire. On n'en a jamais de trop. Mais moi, je suis pour le principe que les partenaires, les bailleurs continuent à nous assister, mais mettent l'accent sur la réhabilitation, sur la reconstruction des moyens de production pour amener ces populations à produire d'elles-mêmes. Est-ce que vous voyez?
D'accord.
Donc, nous devons maintenant partir de l'urgence à un aspect d'autonomisation des populations.
Voilà, c'était.
Et malheureusement, c'est là que les partenaires sont souvent résistants. Donner les moyens de production conséquents aux populations pour les amener à produire elles-mêmes et à mieux se développer.
Justement, Monsieur Adjaviakoué de l'ONG Ardil, Action Recherche pour le Développement des Initiatives Locales, est-ce que Tombouctou va continuer à vivre sous dépendance humanitaire? Quelles sont les dispositions prises pour l'autonomisation aujourd'hui, à votre niveau? Qu'est-ce que vous faites pour l'autonomisation des différentes populations et la réinsertion socio-économique de ces gens?
Vraiment que Tombouctou continue à être sous perfusion humanitaire, vraiment ce n'est le souhait de personne. Nous souhaitons que de plus en plus Tombouctou aussi soit un peu autonome. C'est pour cela, et surtout vu tout ce que les collègues viennent de dire, de plus en plus les financements se font rares. En plus de cela, il faut ajouter la lourdeur des procédures des différents bailleurs. Il faut ajouter à cela tout ce qui fait que les communautés n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Donc, comme le collègue l'a dit, Ngoïba de la MSS, de plus en plus, nous souhaitons aller de la résilience vers les projets de développement. Réunir les conditions pour que les communautés elles-mêmes décident de leur destin et se donnent les moyens de faire face à leurs besoins. De plus en plus, c'est à cela que nous souhaitons qu'on aille.
On voit 36% de personnes qui vivent dans un risque d'insécurité alimentaire. Est-ce que ces chiffres vous parlent? 294 000 personnes environ qui sont à risque aujourd'hui dans la région de Tombouctou. Est-ce que ces chiffres vous parlent?
Naturellement, ces chiffres parlent et interpellent tout le monde. C'est pour cela qu'il serait très intéressant d'aller dans le sens du collègue Ngoïba, amener les gens à travers les méthodes ou bien les stratégies comme le cash for work, comme M. Fomba l'a dit tantôt, amener les gens à la résilience, amener les gens à relever leurs moyens de production, amener les gens à pouvoir maintenir leurs outils de production, amener les gens à pouvoir s'auto-suffire, pouvoir répondre à leurs besoins. De plus en plus, si on va vers ça, peut-être qu'on va un peu nous éloigner naturellement de cette assistance alimentaire, que ce soit gratuite ou bien que ce soit par rapport à la nutrition, nous amener de plus en plus à nous éloigner de ça.
Yaya Fomba de Plan International Mali, on l'a vu dans plusieurs rapports, ça a été dit et redit, un des facteurs de la crise est le chômage jeune, donc les gens qui n'arrivent pas à gagner leur vie. Cash for Work, c'est une excellente initiative, mais dites-moi, qu'est-ce qui est fait pour pérenniser ce genre d'action ou qu'est-ce qui est fait au niveau de plan international pour que la population puisse être autonome aujourd'hui?
Oui, c'est ce qu'il disait. Je crois que les ONG sont un peu dans la logique de rendre résilients les communautés que nous assistons. Ça veut dire, dans une première phase, on est intervenu dans le contexte de l'urgence. Mais aujourd'hui, cette urgence a tendance à prendre fin. Nous rentrons dans le relèvement, la résilience, pour aller vers le développement. Donc, c'est pour permettre aux communautés vraiment d'être résilientes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on a géré des chocs, mais permettent aux communautés d'anticiper les chocs, leur munir d'actifs communautaires, c'est-à-dire des actifs qui devraient leur permettre de ne plus être tout le temps dépendant de cette assistance alimentaire-là. Et je crois presque que le monde humanitaire aujourd'hui est dans cette logique, de permettre à ces communautés-là de s'autonomiser, de se rendre un peu indépendant de cette assistance alimentaire-là, même si on sait que ça va être difficile parce que le Sahel, déjà, il y a un cycle de sécheresse qui est là, qui est connu tous les 2 ans, tous les 3 ans. Nous connaissons un peu une pluviométrie assez insuffisante pour créer des conditions d'insécurité alimentaire. Mais quand même, il faudra permettre à ces populations-là de s'autonomiser à travers des activités génératrices de revenus, à travers la création des actifs communautaires, que ce soit sous forme de cash conditionnel, c'est-à-dire on vous donne du cash, mais à condition que vous fassiez ça pour vous-même, pour vous rendre autonome, indépendant de l'assistance humanitaire à long terme. Et je crois, nous avons, sur les 4 projets que nous mettons en œuvre, nous avons déjà 2 projets, dont l'exécution est confiée d'ailleurs à Ardil, pour suivre la création de ces actifs communautaires-là, pour permettre à ces populations de s'autonomiser, de ne pas rester incessamment dépendant de l'aide. Donc, je crois que c'est seulement cette dynamique-là qui pourra nous permettre de nous passer de l'assistance humanitaire sur le long terme.
Merci. Monsieur Ngoïba de la MSS, vous avez entendu le cri de cœur de Zeynep Walet Sidi. Alors, dites-moi, au niveau de la MSS, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Où sont les insuffisances, d'abord, selon vous? Où est-ce qu'on peut améliorer, déjà?
Bon, la MSS est dans une dynamique globale. Et qui fait que nous sommes, tu sais, actuellement dans une situation de ni paix ni guerre. C'est vrai que les moments les plus difficiles, nous les avons vécus en 2012. Mais de 2012 à la signature des différents accords qui connaissent beaucoup de difficultés de mise en œuvre, il y a les aspects insécuritaires qui font que tantôt on avance un pas en avant et on recule un pas en arrière. Les intervenants n'arrivent pas à vraiment donner le maximum de ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent de ces populations. Donc, je pense qu'il est assez important, si vous voyez, depuis 2 mois, 3 mois, c'est les aspects insécuritaires qui font que nous allons beaucoup appuyer ces populations. Quand il n'y a pas d'échange entre les différentes populations, quand il n'y a pas de déplacement entre les différentes communautés, il est très difficile de valoriser les efforts. Donc nous devons encourager les différents partenaires à contribuer, à mettre en œuvre leurs efforts pour que l'on puisse aller à la mise en œuvre de l'accord déjà signé. Je pense qu'aujourd'hui, la difficulté principale que nous avons, c'est cet aspect de ni paix ni guerre.
Cet aspect donc sécuritaire. Monsieur Bachandia Diaviakoui, dites-moi, quelles sont les insuffisances aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut améliorer? Le secteur humanitaire, bien entendu.
Je peux prendre un seul exemple.
Allez-y.
L'accès à l'eau. C'est aussi important que les domaines que la dame qui vient de lancer le cri de cœur. Sinon, je sais que par rapport à l'accès à l'eau, l'État et ses partenaires ont beaucoup fait.
Justement, on sait que Tombouctou est une région quasi désertique.
Absolument. Alors, c'est un aspect très important.
Est-ce que vous intervenez dans ce secteur?
Absolument.
Qu'est-ce que vous faites très rapidement en 2 mots?
En 2 mots, beaucoup a été fait par l'État et ses partenaires, parmi lesquels se trouvent les humanitaires. Beaucoup d'actions, environ 700 points d'eau modernes ont été réalisés ou bien réhabilités entre 2013 et 2015.
Merci. Alors, dernier mot donc revient à Yaya Fomba, de plan international Tombouctou. Votre dernier mot, Yaya Fomba.
Oui, je dirais que nous sommes là. Nous délivrerons l'aide, l'assistance, autant que possible, avec l'appui de nos bailleurs, à l'avantage de ces communautés vulnérables que nous assisterons autant que possible et dans les besoins, dans les domaines les plus prioritaires, selon les besoins qui vont ressortir des différentes évaluations que nous menons tous les jours.
Merci beaucoup. Merci à nos chers invités. Ils nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Auditrices, auditeurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web www.studiotamani.org. Je suis Ousmane Diadié Touré à la présentation. Petting Diarra a assuré la technique avec nos amis de la radio Diamana. Arkia Touré a réalisé cette émission, bien sûr, avec la coordination technique de Moussoukoura Konaté et de Bekay Sissé. Merci, à demain pour un autre grand dialogue en direct de Tombouctou.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mouli.
Chenne Berry, Sigi.